Le traité porte effectivement, comme vous le savez et comme vous l'avez vu, sur l'un, mais mon propos sera beaucoup plus modeste. Il s'agit simplement de faire quelques remarques sur le sens de la liberté dans ce traité. Donc je remercie les organisateurs de m'avoir fait venir ici. Je remercie les participants de patienter si longtemps après cette journée, quand même, je crois, assez chargée. Et j'ai expliqué, enfin, je me suis excusé auprès d'autres participants pour mon absence le reste de la journée, mais j'étais... on vous l'a peut-être dit, j'étais empêché de venir à plus tôt. Donc, ce qui sur le papier que vous avez devant vous, je vais peut-être en garder un pour moi. oui, enfin, il doit y en avoir encore un là, attendez. Non, il n'y en a plus. Ah bon, ben, je vais prendre celui-là. Donc, il est question en gros donc, du traité 39 ou 6-8. Je ne peux pas en si peu de temps, bien sûr, faire une étude complète. Ce que je propose de faire, c'est quelques réflexions, si vous voulez, sur le vocabulaire de ce traité. En fait, le sens, si on veut résumer le traité d'un mot, c'est assez facile. La thèse de Plotin, c'est de soutenir que on peut affirmer la liberté de l'un et accessoirement aussi de l'intelligible, du nous et de l'âme. Cette thèse en elle-même donc nous présente, enfin, et mérite évidemment toutes sortes de commentaires. C'est pas tellement la démonstration qui m'intéresse, c'est le fait que dans ces cas-là, dans cette affirmation, il est question de liberté. Et donc la question que je me pose, c'est ce que signifie la liberté dans ce cas-là. Cette question est renforcée par le fait que le titre habituel du traité qui, si je ne m'abuse, est de Porphyre et pas de Plotin. Vous me corrigez si je me trompe, hein, c'est bien ça. Et contient une bizarrerie de vocabulaire sur laquelle je reviens dans un instant. Il n'y a pas question de liberté dans ce titre, alors que dans le traité, finalement, la liberté est omniprésente. Le mot choisi par Porphyre n'est visiblement pas adapté au contenu. Enfin, c'est cette particularité qui avait attiré mon attention. C'était la première raison, donc, le premier but de ce travail, de cette petite communication. Et d'autre part, en lisant le traité, je me suis dit qu'il y avait là d'étranges parentés avec Platon qui méritaient peut-être d'être mises en évidence, parce que tout le monde sait que le rapport à Platon est une des difficultés de l'interprétation de Plotin. Et il me semble que sur ce thème précis, il y a à la fois des fils très nets qui relient ce texte à Platon et en même temps des différences qui, un peu comme tout à l'heure l'a dit M. Hoffmann, c'est toujours ça qui est le plus intéressant quand on fait des rapprochements, c'est de voir jusqu'à un certain point c'est la même chose, mais jusqu'à d'autres points de vue, il y a des différences qui permettent donc de mieux cerner l'originalité de l'auteur qu'on est en train d'étudier. Voilà donc en gros mon propos qui, je l'espère, ne sera pas trop long. On a dit 40 minutes ou à peu près 45 minutes. Bon, il est quoi, la moins 20 bon. Alors, je vous propose pour commencer quelques remarques de vocabulaire sur le texte, de vocabulaire grec si vous voulez, mais enfin qui concerne quand même de près notre sujet. Dans ce traité, le vocabulaire utilisé est assez varié. Mais il y a deux termes qui ressortent très nettement, quantitativement. Hein, c'est le terme eleutheros, l'adjectif donc, qui veut dire libre, et autexousios, qu'on traduit de différentes façons par libre, indépendant, etc. Et il y a deux autres expressions, comme je l'ai mis sur mon petit papier là, ephémine et ekousios, qui sont visiblement sémantiquement très proches. Je fais quelques commentaires rapides sur ces termes pour justifier donc l'intérêt que je porte ensuite à eleutheros. Eleutheros, donc, c'est le terme qui est un des termes les plus abondants. J'aurais compté 24 occurrences avec deux dérivés. Donc, c'est le terme qu'on attend quand il est question de liberté dans un texte grec. C'est le terme assez naturel. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est le terme par lequel Plotin définit sa thèse. Quand il l'énonce explicitement et ex cathedra, si je puis dire, enfin, quand il énonce sur le mode affirmatif la thèse qu'il veut défendre, il emploie explicitement l'adjectif eleutéros, et pas une seule fois, je le répète, il le remplit plusieurs fois, et notamment donc dans la thèse à la fin, en 20-18 par exemple, dans le paragraphe, dans le, je ne sais pas comment vous appelez ça, des chapitres ou des 1, hein, dans le traité de chapitres 20-18 et 21-31, c'est-à-dire tout à fait à la fin du traité, quand il résume sa position, c'est bien cet adjectif-là qui est utilisé. Donc il y a une, manifestement une volonté d'utiliser un terme qui n'est pas surprenant pour le lecteur, hein, ni pour nous, puisque c'est celui qu'on traduit d'habitude par Lyon. Autexousia, c'est aussi fréquent à peu près, je n'ai pas compté cela, mais je crois à vue de nez, enfin, me semble-t-il, il faudrait vérifier, mais ça doit être à peu près pareil. Elle est utilisée assez fréquemment et il exprime une idée assez proche, mais c'est une idée plus technique. Je crois que le terme est un terme plus récent, il est absent de Platon, pour autant que j'ai pu vérifier, il est absent d'Aristote aussi. Par contre, il est utilisé par les stoïciens. Et ça ressemble tout à fait à ces mots un peu artificiels forgés par les stoïciens pour désigner techniquement quelque chose de précis. En l'occurrence, si on voulait traduire littéralement, c'est le fait d'être soi-même, d'avoir une possibilité ou une permission par soi-même de faire quelque chose par soi-même, d'être maître de soi. Les traducteurs traduisent parfois par liberté, d'ailleurs, les différents traducteurs de ce terme, bon, parce que ça leur semble à peu près synonyme. Et je remarque que Plotin lui-même le rapproche d'Eleutéros, il le cite plusieurs fois les deux en parallèle, par exemple en 3.21 hein, et en 15.24. Et il est utilisé aussi, exactement comme Eleutéros, pour la thème, mais un peu moins, de façon un peu moins solennelle et nette, mais il est utilisé aussi pour la thèse principale que Plotin soutient, c'est-à-dire la liberté de l'un. Par exemple, en 20-32 et suivante, c'est autexousios qui est à peu près en même temps ou concurremment à Eleutéros qui est utilisé. Donc là, nous avons deux termes qui manifestement portent le traité, ça me semble assez clair. Ecousios, assez curieusement, que Porphyre a mis dans le titre et que Brayé traduit par la liberté, mais en fait, il a raison et tort d'une certaine manière, puisque le contenu du traité, c'est bien la liberté. Mais le titre ne veut pas exactement dire ça. C'est un adjectif qui est beaucoup plus proche de l'idée de ce que nous appelons le volontaire, le plein gré. D'ailleurs, Plotin lui-même l'explique et le commente hein, au début du traité. Il le distingue du éphémine au début, dans le premier chapitre, en expliquant que le éphémine, c'est la. Le fait de pouvoir faire quelque chose, et Ecousios impliquant en plus la connaissance des circonstances, une connaissance à peu près complète des circonstances de l'action, ce qui donc en fait quelque chose de plus psychique ou psychologique, si l'on veut. Les Allemands traduisent par Freiwill en général, là, la Ecousion, me semble-t-il, un Freiwill, par opposition à Freiheit, donc Freiheit, c'est la liberté proprement dite, ou l'adjectif Frei, libre. Cet adjectif, en réalité, est beaucoup plus rare dans le texte. Il apparaît 7 fois seulement, hein, comparé à la bonne quarantaine, sinon plus, des deux autres. Donc il apparaît très peu. 6 si on enlève le titre, donc si on enlève le titre qui n'est pas de Plotin, il n'en reste plus que 6. Ça fait vraiment très peu pour caractériser l'ensemble de la doctrine qui est exposée dans ce traité. De plus, ce caractère, disons, volontaire ou psychique, ou la notion de plein gré, connaissance des circonstances de l'action, manifestement peut difficilement s'appliquer, me semble-t-il, à l'un ou à l'intelligible. Ce serait une façon de le revenir, de psychologiser, si je puis dire, deux hypostases qui sont quand même au-delà, par définition, du psychique, du psychisme, etc. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez une explication tout à l'heure. On pourra peut-être suggérer pourquoi Porphyre a donné ce titre un peu inadéquat. Enfin, même plus qu'un peu, il me semble nettement inadéquat. J'ai rien dit de éphémine. Éphémine est une expression plus courante et banale qui fait partie, au moins depuis Aristote, mais je crois que Platon doit l'employer aussi. Ici ou là, sans en faire un terme technique, mais c'est une expression assez naturelle en grec pour dire qu'une chose dépend de moi, hein, une chose dépend de quelqu'un, elle est dépendante de lui, hémine, c'est dépendant de nous, littéralement, ça dépend de nous, de moi. Donc Aristote en fait un usage plus technique déjà. Les stoïciens, surtout, comme vous savez, l'utilisent pour désigner aussi ce que nous appelons la liberté. Et là aussi, les traducteurs n'hésitent pas de temps en temps à traduire en français par liberté quand ça les arrange, plutôt que lorsqu'on a besoin d'un substantif, plutôt que le dépendant de moi ou ce qui dépend de moi, qui est une formule qui peut paraître trop longue. Elle apparaît dans ce traité un certain nombre de fois, mais surtout au début. Elle est rapprochée d'Eleutéros aussi, en 6-6. Plotin fait comme si c'était à peu près synonyme. Les trois termes qui finalement sont pertinents pour désigner, mais surtout les deux premiers, Eleutéros, Atexousios et Éphine, ont quelque chose en commun tout de même. Et c'est ce qu'ils ont en commun, je le développe un tout petit peu, mais je crois qu'il ne faut pas trop abuser. À travers la notion d'Eleutéros elle-même, il y a une spécificité dans l'adjectif Eleutéros qui mérite d'être relevée, mais qui n'est pas tout à fait équivalente donc, aux deux autres, mais il me semble qu'il y a au moins un point commun, je vais essayer de préciser dans un instant. Eleutéros est un terme compliqué, qui a une histoire, qui a une complexité interne. Les philologues ne sont pas tout à fait d'accord sur l'étymologie. Je vous passe les détails. Je vous ai mis un renvoi à Benveniste là, qui a fait une analyse assez, semble-t-il, assez pertinente et qui n'a pas, me semble-t-il, été jusqu'ici fortement ou mise en cause, qu'il rattache ça à un radical, l'Eude. Enfin, il n'est pas le seul. Hein. L'article de Benveniste que je signale là, c'est simplement une mise au point sur une. C'est pas totalement original sa position, mais enfin c'est une bonne approche du problème en quelques pages. Donc une étymologie qui la rapproche de l'idée de croissance d'un peuple, croissance d'une souche, avec l'idée que le libre est celui qui participe à une souche de croissance. C'est une idée un peu étrange à première vue, mais c'est une idée assez séduisante parce qu'elle contient, si l'on suit ces analyses, au moins deux idées. L'idée de loi interne de développement, loi est peut-être un peu fort, mais en tout cas, disons au moins principe interne de développement, d'une force qui croît, qui se développe en vertu de quelque chose qui vient de l'intérieur d'elle-même, l'image de la plante qui croît étant ici tout à fait adéquate. Et puis en même temps, et symétriquement ou parallèlement, l'idée d'absence d'empêchement. Donc les Eleutéroi, ce seraient, si cette étymologie est acceptée, les gens qui ont cru du verbe croître, hein, cru ensemble, et sans être empêchés par quelque chose d'autre. Donc il y a ça contient finalement, quand on y réfléchit, les deux composantes traditionnelles de l'idée de liberté des origines à nos jours, à savoir l'idée d'une autonomie, c'est-à-dire d'une action venant de l'être ou de la personne ou de la chose qu'on déclare libre, et en même temps, et symétriquement, le fait qu'en face ou à ce développement, rien de décisif ne s'oppose, ou en tout cas ne s'oppose peut-être jusqu'à un certain point, mais que la libre, comme nous appelons une libre croissance ou un libre épanouissement, est assuré. Ce qui fait la particularité d'Eleutéros, me semble-t-il, c'est qu'il a une longue histoire dans laquelle plusieurs sens s'entremêlent. Je n'ai pas le temps de les développer, mais plusieurs sens s'entremêlent. Et en particulier, la notion de liberté que nous reconnaissons une personne, c'est dès la tragédie, dès les textes des tragiques, on a des expressions d'Eleutéros signifiant la liberté au sens de « je fais ce que je veux, je suis mon propre maître ». Et aussi, en même temps, une forte connotation négative, c'est-à-dire une absence de précision sur la nature de ce qui se développe, ce qui est évidemment inquiétant et donne lieu à toutes sortes de revendications contradictoires sur la véritable liberté, selon ce que l'on considère comme méritant d'être développé, ou ce à quoi on accorde le droit ou ce privilège d'un développement sans entrave. Composante négative qui est aussi, me semble-t-il, dans autexousion et dans éphémine. C'est là le point commun qui me paraît important. Il n'y a pas dans la dépendance à soi qui exprime éphémine et dans l'autexousios qui exprime aussi le fait que je suis à vos maîtres de mes affaires, il n'y a pas du tout d'idée d'une fin de ce que serait la bonne manière d'être libre ou la bonne manière de me développer. Sinon, une référence implicite à la nature qui, en moi, nature, mais elle est implicite, elle est parfois explicite, mais elle est le plus souvent implicite à ce qui est véritablement mon être et qui, du même coup, est justifié, a le droit d'arriver au bout du développement qui serait naturellement le sien. Donc, une idée un peu inquiétante, je veux dire inquiétante pour tout ce qui relève de l'autorité ou tout ce qui relève de la régulation des conduites, puisqu'on a affaire là à une idée très ouverte. Dans les trois, il me semble que les trois adjectifs ont cette particularité, très ouverte, relativement indéterminée, qui laisse la porte ouverte à toute une série de controverses sur la véritable liberté. Il y a un célèbre livre sur la liberté en allemand qui a utilisé son chapitre, je crois, le combat pour la liberté, pour dire que autour de l'adjectif eleutheros, les premiers Grecs entre Homère et Platon, en gros, avaient une véritable lutte avaient développé dans le champ intellectuel une sorte de compétition pour savoir qu'est-ce qui méritait véritablement d'être dit libre. Je fais allusion au livre de Nestlé, qui s'appelle, je crois d'ailleurs, Eleutheria, si je ne m'abuse. Le titre du livre va être Eleutheria. Je cite de mémoire là, mais enfin bon, peu importe. Voilà pour ce qui est de cet aspect des choses. J'ajoute une dernière dimension qui me semble importante de signaler, ça peut se discuter éventuellement, qui mérite en tout cas d'être signalé, c'est que l'Eleutheria, l'Eleutheria c'est le nom correspondant, ou l'adjectif Eleutheros, est en même temps chargé d'une forte valeur, je ne sais pas si on peut dire affective, axiologique, c'est-à-dire que ça n'est pas un terme simplement descriptif. C'est aussi en même temps le lieu d'une revendication, d'une fierté. Et être libre, ce n'est pas n'importe quoi. Un homme libre, c'est un homme accompli. Et un homme accompli, ça veut dire qu'il a tous les attributs, tout ce qui normalement revient à l'homme. Et on a là aussi dans la tragédie des exemples très nets où Eleutheros veut dire un homme véritable, par opposition à un homme, par exemple, par opposition à un esclave, évidemment, parce que là, c'est l'exemple le plus facile, mais même par rapport à d'autres circonstances qui sont moins spectaculaires, où, lorsque des peuples revendiquent leur liberté, par exemple, où la notion de libre est associée à l'idée de ce qui mérite véritablement d'être défendu, de la nature qui mérite d'être développée. Donc, une nuance qu'on peut appeler axiologique plus marquée que les autres termes, qui sont plutôt des termes techniques dans une analyse. Quand j'emploie autexousios ou ephémine, je ne fais moins rêver que si je dis eleutheros, mais c'est ça que je veux dire. Mais peut-être qu'on veut dire la même chose, c'est pas sûr qu'on veut dire la même chose, ça dépend évidemment des contextes. Dans le cas de ce traité de Plotin, il me semble que les trois sont à peu près synonyme, avec toujours des nuances évidemment, mais enfin à peu près synonyme, l'utilisation privilégiée d'Eleutheros me semble pouvoir avoir cette signification que j'évoquais du caractère non anodin de l'usage de ce terme. C'est pas simplement autexousios, il aurait pu dire simplement que l'un est autexousios, le fait qu'il dise Eleutheros me semble avoir cette signification supplémentaire. On peut présumer, on peut présumer que Plotin a à l'esprit toute cette histoire. En tout cas, pour le vérifier, je vous propose de regarder à travers deux thématiques, donc ce sens du mot dans l'âme d'abord, et ensuite, j'espère pouvoir parler aussi du nous, de l'intellect et du bien. Je ne sais pas comment vous traduisez d'habitude nous, c'est quoi, intellect, intelligence ? Intellect. Bon, disons intellect. J'ai pas de religion trop assurée sur ces questions de traduction. Donc, alors, je prends le traité donc pratiquement au début. Le Plotin commence par s'interroger. Donc, je m'intéresse rapidement à la liberté de l'âme, et je vais essayer de préciser ce qu'il entend par liberté de l'âme, puisqu'il commence par là. Le traité commence dès le 1.21. Il se demande ce que ça veut dire éphémine, donc dépendant de nous. Et je résume évidemment, je ne suis pas toutes les phrases parce que le style de Plotin est un style, comme vous le savez, assez sinueux, donc je schématise un peu les étapes, mais à partir de situations où nous sommes esclaves, où nous avons l'impression de subir, Hein, il essaye de dégager l'idée de ce que c'est, de ce que signifie le FMI, donc dépendant de moi. Alors, il en arrive très vite, dès le chapitre 2, à la question de la partie, avec des guillemets, parce qu'il n'emploie pas le mot partie, mais c'est les traducteurs qui en sont plus ou moins obligés de l'employer, comme dans la République de Platon, où on balance des parties partout, mais on ne sait pas trop comment dire autrement les instances, les éléments de l'âme, ou les différentes forces qui agissent dans l'âme, etc. Donc, se pose la question de la partie, donc, de nous-mêmes, à qui rapporter ce FMI. Quand je dis que ça dépend de moi, c'est de quoi exactement en moi que ça dépend. La réponse est assez facile, elle vient très vite. Il faut que cette partie soit vraiment nous-mêmes, puisse légitimement représenter la personne dans sa totalité, évidemment, ça semble aller de soi. En plus, il ne suffit pas qu'il y ait une simple conformité à notre nature. Si on admet qu'il y a plusieurs parties, ajoute Plotin à la fin du chapitre 2, la simple conformité à une nature, donc pour définir ce nous, ne suffit pas. Il faut encore que ce soit la partie exemplaire ou la partie qui représente véritablement les intérêts de l'ensemble, sur laquelle on peut synthétiser l'ensemble des caractères de la personne. Alors, la suite du développement est assez facile. La réponse, dès le chapitre 3, c'est que dépend vraiment de nous ce qui dépend de la raison. Donc, si vraiment vous voulez parler de partie, il faudra bien reconnaître que la raison est une de ces parties. Hein, si ce genre de raisonnement n'est pas trop difficile à comprendre ni à faire admettre. Si la raison fait partie de nous, c'est la raison et la raison droite de préférence, 3-4. Ou encore l'acte du nous, de l'intellect, en 3.21-22, c'est-à-dire la partie la plus éminente. Hein, si vraiment il y a des parties, c'est forcément la partie la plus éminente, selon une référence, selon une thématique assez traditionnelle. Hein, s'il y a des parties dans l'âme, il y a des parties supérieures à d'autres. On trouve ça chez Platon ou chez Aristote. C'est pas une doctrine très difficile à comprendre. Ici, elle est considérée comme la plus éminente ou la plus belle, en 3.21. Petite objection au passage au début du 4, dans le chapitre 4. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, dans ce cas-là, si une chose est conforme à notre nature, c'est-à-dire à notre vraie nature qu'est la raison, est-ce qu'on ne va pas objecter que nous sommes esclaves de notre nature ? Expression qui a l'air un peu sophistique, mais qui n'est pas tout à fait insignifiante. On le verra, le reprendra tout à l'heure à propos du bien. Soumis aux lois de sa propre nature, est-ce que c'est encore la liberté ? Plotin répond un peu rapidement, je veux dire, il ne s'arrête pas très longtemps à cette difficulté, en disant que vers la fin du chapitre 4, que si cette nature n'est pas différente de nous, si elle est vraiment en nous et le meilleur de nous-mêmes, dans ce cas-là, c'est absurde de dire que si je suis vraiment essentiellement raison, si le meilleur de moi-même, c'est la raison, suivre la raison, ça ne peut pas être dit non libre. Ce serait absurde de dire qu'il n'y a pas de liberté lorsque ma vraie nature. Et là, on retrouve l'adjectif eleutheros en 4.29 pour exprimer exactement ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'étymologie, c'est-à-dire la conformité à la nature, le fait que la nature soit pleinement elle-même, ne soit pas entravée par autre chose d'extérieur ou par une force quelconque qui pourrait s'y opposer. Dans ce cas-là, Plotin pose ça sous forme de question, l'air de dire, mais si je n'appelle pas ça libre, libre ne veut plus rien dire. Enfin, il ne parle pas comme ça, bien sûr, mais c'est un peu le sens de cette interrogation. N'y avons-nous pas là, dans ce cas, liberté, lorsque la vraie nature en nous s'exprime, lorsque notre vraie nature, la raison, s'exprime, eh bien, comment peut-on encore soutenir que nous sommes esclaves de notre vraie nature ? Ça devient absurde de soutenir une chose pareille. Alors, jusque-là, c'est finalement, on pourrait dire presque attendu, sauf que ce que je remarque, c'est simplement l'usage de eleutheros ici pour désigner cette vraie nature, conformément à ce que j'ai indiqué tout à l'heure comme étant un des sens nodaux, enfin centraux de la notion. Au chapitre 5, après quelques va-et-vient, hein, puisque Plotin part déjà dès les chapitres 4 et 5, il part déjà de l'intellect et puis il revient sur l'âme. Au début de 5, il se demande si cette liberté, qui semblait avoir été traitée de façon très générale dans le chapitre 4, s'applique précisément à l'âme. Donc, est-ce qu'on peut parler de ce genre de liberté à l'âme ? Et alors là surgit une autre difficulté qui, cette fois, n'est pas une difficulté proposée par un adversaire par une doctrine erronée qu'il s'agirait de rectifier, mais produite par la propre doctrine de Plotin, et ça me paraît intéressant, c'est le problème du contexte dans lequel s'inscrit l'action. C'est l'objet, en gros, du chapitre 5 et 6, où Plotin développe longuement, sur deux pages, cette idée que la liberté est essentiellement dans la mise en ordre intérieure de l'âme, mais moins dans l'action elle-même. Autrement dit, qu'il y a quelque chose de contraint dans le fait que, par exemple, si je veux satisfaire des besoins, si l'âme, comme vous savez que l'âme, c'est à l'âme de s'occuper du corps et de toutes les du sensible en général, et en particulier du corps propre, parce que c'est elle qui a la charge, donc elle est en charge d'obligations qui lui viennent d'une nature qui n'est pas la sienne. Être obligé de manger, de dormir, ça oblige l'âme à prendre un certain nombre de dispositions qui, dans ce passage, suggèrent que la liberté est limitée, que la liberté de l'âme ici n'est pas totale. Elle est obligée de tenir compte, en quelque sorte, de l'extériorité. Elle est libre tant qu'elle n'a affaire qu'à elle-même, tant qu'elle régit son intérieur, tant qu'elle... Nous sommes du côté, je crois que Breillet traduit à ce moment-là ce qui, dans le texte grec, n'est pas, il n'y a pas de mot, l'antériorité de la volonté sur l'acte. Hein, ça doit être dans le... C'est 5 ou 6, hein, c'est le début, là. Je crois que c'est 5, oui. Il traduit ça par « il met le mot intention hein, ». Il introduit le mot « intention » qui ne correspond pas exactement à un terme grec, mais... il y a boulésis juste avant, donc la volonté de faire telle ou telle chose, c'est là que se trouve la liberté, et non pas dans l'action totale. Dans l'action totale qui résulte de tout cela, eh bien, il y a forcément une part de contrainte, donc de limitation de la liberté, à cause donc de ces besoins auxquels l'âme répond, à cause aussi des circonstances qui font que je ne fais pas ce que je veux, si je veux dormir, si je veux manger, ça ne dépend pas entièrement de moi, et donc il y a là une limitation. Et la conclusion qu'on a au début du chapitre 7, c'est de dire que l'âme est libre lorsqu'elle tend au bien sans obstacle. Et il ajoute là par l'intellect, par le nous, qui lui est libre par lui-même. Alors, dans une formule un peu trop belle et trop condensée, on a tout un résumé assez net de cette première partie, mais qui annonce la difficulté de la partie suivante. Donc, l'âme est libre, hein, c'est au début du chapitre 7, si je ne m'abuse. Hein, je ne veux pas dire de bêtises quand même. Oui, c'est le. Là, la formule, c'est le résumé. Donc, l'âme est lui, c'est ça, eleutera. Ginetai un psychemen eleutera, dia nous. Hein, lorsqu'elle tend, dia nous, prosto agaton. Donc, on a tous les termes qui nous intéressent dans ce résumé. C'est la première phrase du chapitre 7. Donc, l'âme est libre lorsqu'elle tend au bien par l'intermédiaire de l'intellect. Donc, dans la mesure où elle raisonne, où elle a affaire à elle-même, par l'intellect qui est en elle ou vers lequel elle regarde, qui lui-même est tourné vers le bien, à ce moment-là, l'âme est libre, mais elle n'est pas totalement libre dans son action extérieure. Alors, cette thématique... Bon, il y a d'autres textes de Plotin, je ne vais pas vous les découvrirez par vous-même un jour, si le sujet vous intéresse, où l'âme est dite libre de cette façon. Le rapprochement avec Platon, ici, m'a... Et assez curieux, je crois, mérite d'être fait, bien que ce soit controversé et qu'on ne puisse pas être très affirmatif. L'idée que la liberté est quelque chose d'intérieur, oui, bon. Le texte de Henri Schwitzer à ce passage, donc 5-6, je ne sais plus si c'est en 5 ou 6, c'est en Schwitzer, là, l'édition, hein, je pense que tout le monde sait ce que c'est, l'édition de référence, donc, enfin de référence, oui, l'édition du texte de Plotin, dans les notes, renvoie à Platon, justement, à République 4, ici, en disant, tiens, ici, Plotin semble s'inspirer de la République, livre 4. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais ils mettent la référence. Et effectivement, en regardant les deux textes, on est frappé d'un certain parallélisme. Je laisse de côté ce que j'ai mis sur mon papier, les allusions. C'est vrai qu'on trouve des allusions à cette intériorité dans Sibia, dans Protagoras, Gorgias, mais c'est surtout le passage République 4, 443 et suivante, qui est, vous le savez sans doute, le texte qui résume la définition de la justice individuelle dans la République, qui contient des termes très proches. Alors c'est ça qui a suscité, je pense, de la part d'Henri et Schwitzer, la petite note qu'ils ont mise dans leur édition. Effectivement, mais il ne s'agit pas de la liberté au sens propre, il s'agit de ce que certains interprètes affirment être la liberté chez Platon. Mais le mot, à ce moment de la République, le mot n'est pas liberté, n'est pas prononcé. Il y a simplement ce texte un peu étonnant, je ne sais pas si vous avez à l'esprit, mais ça fait partie des textes que tout le monde lit une fois, au moins, ou plusieurs fois dans sa vie. Hein, la définition de la justice, c'est lorsque l'âme s'occupe uniquement d'elle-même, lorsqu'elle s'occupe non pas de l'extérieur, c'est les mêmes mots que chez Plotin, là, non pas tournée vers l'extérieur, mais lorsqu'elle s'occupe uniquement d'elle-même, de son activité propre. Lorsque chacune des parties s'occupe de ce qu'elle doit faire, elle, et non pas de ce que font les autres parties. Lorsque l'âme a finalement harmonisé toutes ses parties, parce que les trois parties, il ne faut pas qu'elles... Les trois parties, avec toujours des guillemets, il ne faut pas qu'elles puissent agir chacune de leur côté. Donc l'âme doit... Alors Platon insiste avec trois ou quatre termes pour désigner l'harmonie. Ici, l'unité, l'amitié, je crois qu'il dit l'unité, l'amitié, l'harmonie. En développant une image musicale, d'ailleurs, en plus, pour expliquer ce que c'est que l'harmonie, en l'occurrence, la nette, l'hypate et la mèze, hein, les trois degrés de référence dans la gamme musicale des Grecs. Enfin, tout ça pour dire que la véritable justice, c'est cette harmonisation, cette mise en ordre de l'âme, et non pas du tout les actions extérieures. La différence, quand même, qui me paraît intéressante... Alors, le fait que le mot « liberté » ne soit pas prononcé ici n'est pas très significatif, me semble-t-il, parce que le sens, manifestement, de ce passage, c'est quelque chose qui ressemble fort, en tout cas, les passages parallèles que l'on peut trouver, notamment dans la fin de la République, hein, les passages... Parce que Platon reprend un peu cette image, comme vous le savez, lorsque, dans le livre 9, il représente l'homme juste dans les différentes activités qu'il peut accomplir, c'est-à-dire notamment en 590D, et dans le Phèdre aussi en 256B. Je n'ai pas mis ce truc-là. Si, je l'ai mis là-bas. Dans 590D et Phèdre 256B, où on trouve là à peu près, enfin, pas tout à fait la même idée, mais une idée très proche de l'harmonisation des parties de l'âme. Et dans ces deux textes que sont le Phèdre et la République 9, là, il est question de liberté explicitement. Le mot liberté est prononcé. Donc, admettons que nous laissions entre parenthèses la question de savoir si Platon ici songe à la liberté ou sens propre ou pas. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la référence à Platon dans ce qu'elle a à la fois de proche et de différent. Alors la proximité, c'est incontestablement l'idée d'intériorité, la priorité de l'intérieur sur l'extérieur. La véritable liberté, ce n'est pas de réussir dans le monde, si je puis dire, d'avoir une action efficace, mais c'est d'avoir en quelque sorte pris les dispositions pour que l'âme, dans son rapport à elle-même et à l'intellect et au bien, soit correctement orientée et une volonté vertueuse. C'est la vertu, c'est ça qui détermine si l'âme est vertueuse ou non, et non pas si, dans l'action effective, ça réussit ou ça ne réussit pas. Alors, la différence, il y a une différence minime, semble-t-il, donc ça, c'est visiblement un point commun. La différence minime, c'est que Plotin insiste moins sur l'ordre et l'harmonie de l'âme que Platon. Platon, je vous l'ai dit, mais deux ou trois ou quatre termes même, enfin, avec une insistance assez nette sur cette idée d'harmonie des parties. Il y a juste un mot chez Plotin qui est en 5.29, c'est « mise en ordre », traduit par « mise en ordre », je ne sais plus quel est le mot grec exactement, ça doit être « katakosmesis », voilà. Katakosmesis, qui signifie à peu près quelque chose de semblable, hein, de mise en ordre de l'âme par elle-même. Mais ça paraît moins significatif qu'une autre différence qui tient au fait que le texte de Platon continue par quelque chose qui n'est pas du tout chez Plotin, qui semble même tout à fait contraire à la pensée de Plotin. Le texte de Platon, si vous l'avez à l'esprit, continue par « et une fois qu'il aura harmonisé ses parties, etc., alors qu'il fasse ce qu'il veut, en gros, hein, qu'il s'occupe, Platon commence par prendre la surprise générale ou la surprise du lecteur, premier exemple qu'il prend, c'est le corps, qu'il s'occupe de son corps, qu'il s'occupe de ses richesses, qu'il s'occupe de politique, qu'il s'occupe de trucs variés, enfin d'activités de toutes sortes, et ça n'a plus d'importance, il sera juste puisqu'il aura accompli, il aura réalisé l'harmonie en lui-même. Et Platon ne semble pas suggérer du tout que la justice en question, mais peut-être aussi la liberté, mais ça c'est plus problématique, en tout cas, ne semble pas suggérer que l'action extérieure, dans sa réussite ou son échec, change quoi que ce soit à la vertu ou à la liberté, en tout cas pas à la justice, ça c'est clair, à la justice de l'âme ça ne changera rien. Est-ce que ça change quelque chose à la liberté telle qu'elle est analysée au livre, enfin analysée lorsqu'elle est, soyons prudents, telle qu'elle est évoquée discrètement au livre 9 on n'a pas la pression, enfin on n'a pas la pression, mais ce qui est sûr, c'est que Plotin très nettement insiste sur l'aspect. Il ne me semble pas que Plotin puisse aussi facilement accepter que Platon l'idée que une fois que cette harmonisation est réalisée, peu importe ce qui se passe après, que ça réussisse ou que ça rate, que j'ai du succès ou non dans l'échec, l'âme resterait libre, dirait peut-être Platon, il ne le dit pas, hein, donc il me semble qu'il pourrait le dire. En tout cas, Plotin ne peut pas dire, je crois, il ne pourrait pas dire. D'ailleurs, il dit explicitement le contraire ici, puisqu'il dit que la liberté serait limitée par ça. Il me semble qu'il y a là quand même très nettement une liberté qui, en tout cas, une action du juste qui s'exerce dans les activités ordinaires de la vie chez Platon, et une liberté un peu tournée vers l'intérieur, pas un peu, une liberté très nettement tournée vers l'intérieur, dans le cas de Plotin, comme l'âme est vraiment libre quand elle se tourne vers elle-même, vers l'intellect et vers le bien, et non pas quand elle s'occupe de ce dont elle a à s'occuper, hélas, pourrait-on dire, dans la vie quotidienne et dans l'ensemble de son existence. Il y a une sorte de malédiction, enfin de malédiction. Hein, on a parlé tout à l'heure de cette curiosité qui fait que l'âme se tourne vers des choses qui, après tout, si elle était restée concentrée sur l'intellect, tout ça ne lui serait pas arrivé. Donc il y a quand même là une limitation et une conception de la liberté qui est à la fois forte dans la définition du principe et un petit peu limitée par cette considération de la menace que fait peser l'extériorité en général. Ouais, ça va très vite, hein, le temps. On a commencé à moins d'un. Quelques mots quand même sur le dernier point, si vous permettez. Lorsque on passe après le 7, tout de suite après la transition du début du 7, tout le reste du traité est consacré à la liberté de l'un et accessoirement et du nous, de l'intellect, mais c'est plutôt le bien qui est le problème de Plotin. Il veut surtout pouvoir défendre l'idée que la notion de liberté s'applique bien à l'un. Alors, dans ce débat, Plotin a affaire, semble-t-il, c'est l'impression que j'ai eue, peut-être que les spécialistes de Plotin ici présents ne seront pas tout à fait de mon avis, mais c'est pas très grave. En l'occurrence, je veux dire, il me semble qu'il est surtout préoccupé par les gens qui veulent avancer la notion de hasard. Le hasard et l'accidentel, il polémique assez longuement, avec des tours et des tours, hein, c'est pas l'objet unique, mais il revient plusieurs fois quand même, et assez souvent, m'a-t-il semblé, sur à la fois la fortune, le hasard, l'accidentel, pour dire qu'il est absurde d'attribuer au bien quelque chose qui serait une indétermination proche de celle du hasard, enfin quelque chose qui serait de l'ordre de la fortune et du hasard. Cet aspect m'a-t-il semblé à la lecture et à la relecture du traité comme prioritaire dans l'esprit de Plotin, comme s'il était, peut-être pour des raisons historiques, il avait peut-être là affaire à des adversaires autour de lui, dans son école, qui précisément avaient soutenu des thèses de ce genre sur l'indétermination radicale où le hasard serait la cause, etc. Bon. Il me semble que ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, ce n'est pas tellement là-dessus, bien que ce soit, je le répète, dans le traité prioritaire, mais plutôt sur l'autre idée qui me semble plus difficile à mettre en évidence, mais sur laquelle j'ai envie au moins de vous inviter à vous rendre. Enfin, même si mes propositions vous paraissent fragiles, et je pense qu'elles le sont, en effet, mais ça me semble une piste à explorer. Alors, c'est le fait que, me semble-t-il, à côté de ce refus de la hasard, il refuse aussi la nécessité. Alors, vous me direz, c'est évident, quand on défend la liberté de l'un, on refuse la nécessité. D'ailleurs, le mot est dans le texte plusieurs fois. Hein, il dit le refus de la nécessité est explicite plusieurs fois. Donc, c'est pas une découverte que je prétends faire en disant ça. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est ceci. C'est que lorsqu'on dit que le bien ou l'un est libre, l'objection selon laquelle il est soumis à sa propre nature, qui répète l'objection tout à l'heure à propos de l'âme, lorsqu'on disait mais est-ce qu'un être qui obéit à sa propre nature, est-ce qu'il n'est pas esclave de cette nature ? Nous avons vu la réponse finalement assez facile qu'on peut faire à cette objection. Est-ce qu'on peut répéter cette objection dans le cas du bien ou de l'un, voire de l'intellect ? Il me semble que Plotin vise aussi cette cible-là. Autrement dit, comme si le fait de pouvoir suspecter que l'un a une nature ou quelque chose comme une essence ou en tout cas une définition, une détermination, hein, il emploie dans le même traité, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais à la fois pour parler de l'un tantôt déterminé, tantôt indéterminé, donc une détermination qui permet d'en parler, qui permet de dire quand même qu'il est quelque chose, par exemple qu'il est libre. Il faut bien, pour pouvoir dire ça, il faut bien qu'il ait une nature ou quelque chose qui ressemble à une nature, sinon la phrase ne veut plus rien dire. Enfin, on ne peut plus juger de la pertinence d'un attribut si on ne sait pas ce qu'est le sujet. Si je dis que X est grand ou petit, il faut bien que, pour pouvoir répondre à cette question, il faut que je sache à peu près ce qu'est X, sinon je ne pourrai jamais répondre. Donc, or, comme il répond ici, comme il répond à la question en disant « oui, X, en l'occurrence, là, est bien libre », il faut bien que ce 1 soit quelque chose d'une manière ou d'une autre déterminable pour pouvoir affirmer une chose pareille. Alors, c'est là que pèse la menace, m'a-t-il semblé. Je résume un petit peu parce qu'on n'aura pas le temps d'aller au bout. C'est là que, me semble-t-il, arrive la menace que le caractère intellectuel du bien pourrait donner à penser que cette liberté n'est qu'une espèce d'autre expression de la nécessité rationnelle. Et comme si, après tout, être libre pour l'un et pour le bien et pour l'intellect, c'était tout simplement un peu, selon une forme de spinozisme peut-être mal compris, la simple expression de la nécessité de la raison, sans autre précision. Oui, comme si c'était, il y a une nécessité rationnelle qui s'impose, qui s'imposerait donc au bien ou à l'intellect, d'une manière aussi forte que l'intellect impose ses propres normes et ses propres principes à l'âme et à tout ce qui suit. Il suffit de formuler la question comme je viens de le faire pour que, évidemment, la réponse négative s'impose. Mais avant de parler de la réponse négative, je rappelle que la question n'est pas tout à fait illégitime dans la mesure où Plotin, dans ce traité précisément, mais aussi dans d'autres, je pense que vous pourriez en citer d'autres passages, mais dans ce traité précisément, donc c'est pourquoi j'en parle, fait plusieurs rapprochements à mon avis, très, très, très significatif, pas du tout fortuit, entre le bien et l'intellect. Autrement dit, le bien a quelque chose de l'intellect. Il emploie même l'expression, dans je ne sais plus quel passage exactement, mais vous le retrouverez sans peine, de l'intellect qu'il a en lui. Alors, qu'il a en lui, ou de l'intellect qui est en lui. Et puis, il y a une autre formule encore, un peu plus loin, qui est la super-noésis, hyper-noésis, comme si le bien était une sorte de super-intelligence ou super-intellection, ce qui est une formule assez difficile à interpréter, mais qui, dans les deux cas, suggère tout de même qu'il y a une proximité entre le bien. Évidemment, dit sous cette forme-là, ça paraît une énormité, c'est évident. Mais ça signifierait, sur le problème qui nous intéresse à l'instant, qu'il y aurait peut-être quand même quelque chose comme une nature. Si le bien est plutôt super noésis et non pas super, je ne sais pas quoi, super tuquet, hein, super fortune ou super nécessité, ça veut peut-être quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une identification possible, au moins une approche possible du bien, qui permet donc, lorsqu'on parle de liberté, de suspecter, de poser cette question, mais est-ce que cette liberté n'est pas tout simplement l'expression de la nécessité ? C'est ça la question que je voulais poser. Je ne sais pas si j'ai été très clair à force de tourner autour du pot, mais l'idée que la proximité ou la parenté du bien et de l'un, du bien et de l'intellect, puisse nous inciter à interpréter la liberté de l'un comme étant simplement l'expression d'une super nécessité, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui me dissuade de ça ? Eh bien, il me semble qu'il y a, dans le cas du bien, est relativement rapide, vite, au moins formellement dans le texte de Plotin lui-même, la réponse est assez rapide. Le bien ne peut évidemment pas être soumis à une autorité extérieure ou supérieure ou antérieure, ça par définition. Et il n'a pas non plus, et ça Plotin le dit à satiété, il le répète un très grand nombre de fois dans ce traité, il n'a pas non plus une essence ou une nature. Donc s'il n'a pas d'essence ou pas de nature, l'objection de tout à l'heure, est-ce que sa propre nature ne viendrait pas en quelque sorte le paralyser ou le figer dans une espèce de rationalité absolue cette réponse qui donc est une constante, enfin c'est pas le seul endroit où Plotin dit ça, hein, dans les Énéades il le dit en plusieurs endroits, c'est une thèse assez bien connue, mais ici elle lui sert, évidemment elle est commode pour essayer d'échapper à l'idée que sa propre nature lui pèserait d'une certaine façon, lui pèserait ou apparaîtrait comme une contrainte ou comme une armature intérieure qui s'opposerait à l'idée de liberté et de libre croissance, de vie libre, dans le cas de l'un, le seul adjectif ou le seul verbe peut-être qu'on puisse utiliser, adjectif, c'est pas un adjectif, ni le seul terme qu'on puisse utiliser pertinent, c'est peut-être la vie, cette vie de l'un qui n'est pas simplement la. La contrainte subie d'une nature, ce qui est le cas pour les plantes, ce qui est le cas pour les autres êtres dont nous disons qu'ils sont libres, parce que lorsqu'ils se déploient pleinement jusqu'à leur épanouissement, c'est quand même ce qui était dans le germe, pourrait-on dire, qui se trouve exprimé par la plante adulte, alors que dans le cas d'un être qui n'a pas ce germe ou cette nature originelle, évidemment, l'idée de liberté prend une tournure beaucoup plus radicale dans l'ordre de l'indétermination. Donc, il y a d'autres négations, elles sont nombreuses dans ce texte, comme si vous le lisez jusqu'au bout. Hein, la négation, Plotin revient plusieurs fois sur le fait qu'on est obligé de parler du bien par négation, qu'on va parler provisoirement comme s'il avait une nature, mais en sachant que c'est un comme si, et qu'en réalité, il n'y en a pas, etc. Enfin, donc, ce thème est assez répétitif dans ce traité, mais il est clair qu'il n'a pas de nature, pas d'essence, il n'a pas de volonté. Si on peut éventuellement lui attribuer une volonté, il est antérieur à cette volonté. Donc, il y a même cette formule, hein, il est ce qu'il veut, il fixe ce qu'il est, hein, en 9-19. Ce qu'il est, il le fixe, autrement dit, il ne le subit pas. Il pose, hein, le verbe epititemi, je crois, ou un composé de titemi, il pose lui-même ce qu'il est, donc ce qui est une façon de dire qu'il n'est pas... Il n'a pas sur les épaules la chape d'une nature ou d'une structure quelconque. Alors, il faudrait dire la même chose de l'intellect. C'est beaucoup plus délicat. Dans le cas du bien, finalement, quand on a pratiqué un peu Plotin, on voit bien ce qu'il veut dire. Enfin, on voit bien. Il semble qu'on devine quand même à peu près que ces négations nous font signe vers une espèce d'indétermination qui n'est pas radicale, mais qui est quand même portée aussi loin qu'elle peut l'être dans les limites d'une philosophie rationnelle. Il ne s'agit pas de sombrer dans l'irrationnel ou dans le fortuit, dans la philosophie du hasard. Dans le cas de l'intellect, il y a des formules un peu contradictoires dans le traité. Tantôt, il dit que le bien impose sa nécessité à l'intellect, en 10.34, par exemple. Mais à d'autres endroits, il dit pas vraiment le contraire, mais il dit que le bien communique sa liberté à tous les êtres qui dépendent de lui. C'est une façon quand même assez forte de dire que ce que je viens de dire du bien, d'une certaine manière, s'applique aussi à l'intellect. Il y a une telle intimité dans tout le traité, mais dans toute l'œuvre de Plotin, pas seulement dans ce traité, entre l'intellect et le bien, que après tout, on peut comprendre que il y a l'image du cercle qui revient dans ce traité-là, le centre et le cercle. Le bien et l'intellect sont tellement intimement unis que la liberté propre du bien s'applique aussi, par transitivité, si je puis ainsi m'exprimer, à l'intellect. Et puis, il y a cette idée plus secrète, à mon avis, plus platonicienne peut-être, que de toute façon, le rapport la visée du bien ou l'orientation vers le bien, qui est le propre de l'intellect, donc, ne peut jamais être présenté comme sous l'ordre d'une nécessité ou d'une fatalité. Et le bien exerce sur l'intellect une séduction. Et les questions de désir en 13-12, par exemple, et non pas une nécessité. Je crois que là, il y a une allusion un peu discrète, mais je crois pour un platonicien assez reconnaissable quand même, à une thèse bien connue de Platon, enfin, selon laquelle le bien, le vrai n'est pas le dernier mot, mais qu'au-dessus du vrai, il y a le bien, et que le bien, il faut le vouloir en quelque sorte, il faut être animé du désir de la vérité pour que la vérité devienne une norme. La vérité ne s'impose pas mécaniquement à nous. Il y a une espèce de priorité à un rapport qu'on peut appeler, en termes psychologiques, on appelle ça désir, mais le mot est dans le texte de Plotin lui-même, et Platon lui-même ne se prive pas d'employer ce vocabulaire de l'appétence, du désir vers le vrai, qui n'est pas la même chose que le fait que le vrai s'impose. Le vrai ne s'impose pas nécessairement par une espèce de mécanique implacable, c'est comme ça et pas autrement. Il faut encore le vouloir, il faut encore être séduit, je crois que Mme Dixot a employé le mot quelque part, par l'ordre du vrai pour faire pour lui donner tout le poids que nous lui accordons. J'arrête là parce qu'il est très tard déjà. J'avais mis sur mon papier quelques références à Platon. C'était surtout la dernière qui m'intéressait parce que celle qui est en petit b, là, tout le monde connaît ça, ce sont des choses bien connues. Mais ce que je voulais dire globalement dans cette partie, c'est qu'il y a très nettement, quand on suit ce fil chez Platon, une antériorité par rapport à Plotin, donc une source là qui visiblement, enfin, il me semble que Plotin a ça à l'esprit. Il y a de nombreux passages chez Platon dans lesquels la détermination du nous, la causalité du nous, est de l'ordre du désir, de l'ordre de la. C'est le meilleur, c'est le fait que ça vaille mieux qui fait qu'on accepte ou qu'on suive ou qu'on accepte le raisonnement. Ça n'est pas par le fait qu'on est en quelque sorte paralysé et empêché de faire autre chose, mais c'est parce que la proposition qui est faite par celui qui l'a fait ou par le philosophe lui-même à quelque chose de mieux, qui est perçu comme valant mieux et non pas simplement comme s'imposant par sa nécessité interne. Et là, vous pouvez regarder, tout le monde connaît les textes de la République 6-7, bien sûr. Vous connaissez peut-être moins 9-875-C, qui est un passage étonnant dans lequel Platon emploie une formule qui est à peu près celle de Plotin ici, sur le nous libre. Il dit le nous, par essence, par sa nature, est libre. C'est un texte que j'avais prévu de vous donner, mais je ne sais plus où il est. Il est quelque part là dans mes papiers. Mais de toute façon, les textes de Platon sont accessibles. Ce ne sont pas des textes qui se diffusent sous le manteau, je pense. Et que donc vous pouvez trouver facilement ce passage. Je n'arrive pas à le retrouver, je ne l'ai pas sous les yeux, mais peu importe, vous le trouverez. C'est un passage très étonnant dans lequel Platon dit explicitement le nous, donc l'intellect, si vous voulez, bien que les deux mots ne soient pas synonymes chez Platon et chez Plotin, par sa nature même est libre et n'est soumis à aucune espèce d'esclavage ou de contrainte. Donc 875C. D'un mot pour conclure, simplement, je crois que la position de Plotin ici mérite d'être... Ce que j'ai dit est évidemment très insuffisant, parce que bon, il faudrait approfondir et justifier mieux ce qui a été avancé, mais il me semble qu'on peut voir d'une part que la thèse globalement de Plotin est une thèse d'aspiration platonicienne sans... Il y a des fils visibles qui rattachent ce texte à Platon, ça me paraît très clair, mais en même temps, ça n'est pas simplement du Platon, il y a un certain nombre de différences qui sont assez caractéristiques, me semble-t-il, de cette orientation différente de la philosophie de Plotin par rapport à Platon, même dans les moments où il s'en inspire ouvertement. Ça me paraît deuxièmement une thèse assez audacieuse, assez forte, je n'ai pas eu le temps d'assister sur ce plan-là, c'était surtout dans le troisième point que je voulais montrer cela, assez audacieuse, en tout cas pas anodine, affirmer aussi fortement et aussi nettement et à plusieurs reprises avec cette insistance sur le mot « eleutéros », ça me paraît une thèse non anodine, il me semble que Plotin a vraiment une volonté d'affirmer quelque chose de fort des deux hypostases, au moins des deux hypostases supérieures, au moins du nous et du bien, que c'est une liberté qui a quelque chose de radical, me semble-t-il. Hein. Il se fixe à lui-même son être, c'est quand même pas la même chose qu'il obéit à un ordre immuable ou quelque chose comme ça. C'est pas il est fixé dans un ordre éternel, il se fixe en permanence son propre être. C'est quand même une formule qui me paraît rarement rencontrée, enfin qu'on rencontre pas tellement souvent dans les théories de la liberté. Évidemment, il s'agit du bien et de l'un, il ne s'agit pas de vous et de moi, mais quand même, ça vaut la peine d'être soulevé. Et en même temps, c'est une thèse qui, dans cette audace, est tout de même, reste tout de même dans les limites, comme je le disais tout à l'heure, d'une philosophie rationnelle, puisque tous ces rapprochements que j'ai faits entre... Il me semble qu'il y a là des gnostiques, là, quelque part, cachés derrière, sur la même voie d'une liberté radicale, sont allés beaucoup plus loin en rendant équivalent le bien et le mal, par exemple, ou des choses comme ça. Il me semble que Plotin se préserve de ce risque-là à cause de cette intimité du nous et du bien. J'arrête là, je crois que j'ai épaté déjà trop long. Excusez-moi et merci pour vous. Et merci pour vous.